Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Attends, parce que là, j'ai un écho dans le casque. Voilà, c'est mieux. Bonjour. Et on va continuer à parler en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Des Brutes en Bollant de Martin Winkler.
Faire une petite annonce
et avant qu'on démarre. Donc pour commencer une annonce.
Oui, donc le groupe libertaire d'Ivry dont je fais partie organise dimanche prochain, donc le 19, à partir de 16h et puis on accueille de toute façon on accueille à partir de 15h, mais la librairie Publico est ouverte le dimanche après-midi. Donc voilà, ça sera autour d'un petit bouquin. Qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine » et qui parle de l'exploitation en milieu associatif. On a déjà organisé ça plusieurs fois, donc l'idée c'est vraiment que les gens apportent à la fois leur point de vue, s'ils n'ont pas d'expérience, et leur expérience, s'ils ont une expérience dans ce domaine-là, en élargissant à l'idée du même type d'exploitation. À savoir le décalage qu'il peut y avoir entre le fait que souvent, quand tu travailles en association, en effet, comme dit le titre, te plains pas, c'est pas l'usine, et qu'il faudrait se réjouir que t'en viens, ça arrive aussi dans des boulots, je veux dire, classiques, quoi, mais que ce qui ressortait souvent des plaintes des gens quand on en a parlé d'autres fois, c'est le décalage qu'il y a entre l'image que t'es obligé d'avoir et le fait que tu n'oses pas te plaindre parce que sinon il pourrait être privé de subvention, ça pourrait. Et puis surtout, que penseraient les gens, quoi, si jamais ils apprenaient que la super structure est tout trop libertaire, trop cool et tout, est en réalité quelque chose de largement aussi oppressant qu'un travail classique, quoi. Voilà. Donc c'est dimanche prochain à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf, République Fille du Calvaire. Et c'est gratuit, évidemment.
Et donc c'est organisé
par le groupe Libertaire d'Ivry. Oui.
Eh bien, pour commencer cette émission, des choses recueillies dans la presse, notamment à partir de l'idée que le président des États-Unis serait fou. C'est un truc qui est récurrent depuis à peu près 2024. C'est cette rumeur s'étend comme quoi Monsieur Trump serait un fou.
Juste une parenthèse, dans un livre dont on a souvent parlé, même si l'auteur n'est pas toujours doré sur tranche, mais c'est Anne Morelli par rapport aux principes élémentaires de propagande de guerre. Oui. Il y a un chapitre entier qui est consacré à le chef d'un pays ennemi, à le visage du diable. Et que, en effet, j'avais dû te lire des passages où il était question, effectivement, que le chef ennemi, est effectivement un nouvel Hitler, mais aussi est fou. Et d'ailleurs, l'idée de la folie, par exemple, de Hitler, a souvent été évoquée, y compris en montrant une photo qui était en fait complètement trafiquée, quoi. Mm-hmm. Comme quoi il dansait sur place en apprenant une victoire. Donc il y a un côté, il ne sait plus où il habite, etc. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de très récurrent, cette idée de la folie du chef ennemi. Voilà. Oui.
Alors, en l'occurrence, c'est je ne sais pas si c'est une info ou pas, mais qui a été diffusée. C'est aussi à l'initiative du Parti démocrate qui veut voir Trump partir de son poste.
Et pour c'est une bonne guerre, ça veut
dire. Pour le remplacer. Voilà. Du coup, je lis. C'est un article du Monde du 8 avril. Le président des États-Unis est un fou. L'escalade verbale de Donald Trump alimente les interrogations sur sa santé mentale. Des élus du Congrès, sidérés par le langage ordurier et génocidaire employé par le locataire de la Maison-Blanche, commencent à évoquer le 25e amendement de la Constitution qui permet de déclarer un chef d'État inapte et de confier ses pouvoirs au vice-président. Alors, c'est un, par Piotr Smolar, correspondant à Washington. Le président des États-Unis, Donald Trump, a employé un langage génocidaire à l'encontre de l'Iran mardi 7 avril, avant de finalement reporter de 2 semaines son ultimatum. « Une civilisation entière mourra ce soir », écrivait-il sur son réseau Truth Social, « pour ne plus jamais renaître ». Tandis que les commentateurs spéculaient, comme à chaque menace du magna, sur ses supposés calculs de négociateur et son sens de l'hyperbole, une réalité s'imposait, frustrée par la résistance du régime iranien qui l'imaginait tomber au lieu de dérégler l'économie mondiale, Donald Trump renonce à toute retenue oratoire. Plus de surmoi, ni de gravité présidentielle. « Ouvrez le putain de Détroit, d'Hormuz, bande de bâtards cinglés, où vous allez vivre en enfer », menaçait-il le 5 avril. Lundi, lors d'une conférence de presse très suivie à la Maison-Blanche, un journaliste osa poser une question délicate. « Quelle est votre réponse aux critiques qui disent que c'est votre santé mentale qui devrait être, peut-être, examinée alors que la guerre continue ?» Donald Trump ne se démonta guère. Je n'ai pas entendu ça, mais si c'est le cas, il va falloir qu'il y ait plus de personnes comme moi, parce que notre pays était abusé en matière de commerce, surtout depuis de nombreuses années, jusqu'à ce que j'arrive. Le milliardaire faisait mine d'ignorer les interrogations sur son équilibre psychologique. Bon, alors c'est un article du Monde. Comment ?
Oui, non, vas-y. Oui.
Et donc, il y a aussi le Journal de Montréal, un spécialiste de l'opinion, qui s'appelle Normand Lester, qui parle aussi de cette question. Ceci est la question que plusieurs se posent au sujet du président américain Donald Trump en raison de ses nombreux sautes d'humeur et volte-face. Donald Trump a-t-il une maladie mentale ? Le narcissisme monomaniaque ostentatoire de Donald Trump est de plus en plus alarmant. Dans sa guerre au Moyen-Orient, avant de faire marche arrière, il a menacé de détruire la civilisation et de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre ou en enfer. Les services secrets des principaux pays de la planète ont des spécialistes chargés de suivre la détérioration de son état mental pour savoir comment ses carences cognitives influencent son leadership et ses processus décisionnels. Leurs évaluations de la démence de Trump sont évidemment classées avec la plus haute cote sécuritaire, mais d'ex-employés d'agences de renseignement étrangères et américaines ont fait des révélations à ce sujet dans les médias, souvent sous le couvert de l'anonymat. Un débat existe parmi les experts quant à l'importance relative de son déclin cognitif et de ses traits de personnalité problématiques pour expliquer ses comportements erratiques. Les évaluations des services de renseignement sont maintenant sûrement produites avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Un narcissisme malveillant. La plupart des experts, comme l'ancien profileur de la CIA, Gerald Post, priorise son narcissisme comme le trait dominant de sa personnalité. Il a un besoin maladif d'admiration, d'éloge et une hypersensibilité à la critique.
C'est banal.
Oui, c'est un peu comme beaucoup de monde en fait. Comme il a tendance à se sentir persécuté, ses adversaires anticipent qu'il réagira très négativement à tout ce qui remet en cause son autorité. Un bon moyen pour eux de déclencher en lui, chez lui ces réactions de déséquilibré et de le provoquer. Le bon moyen, c'est de le provoquer pour déclencher chez lui ces réactions-là. Ses partisans tiennent compte dans leur relation avec lui de son besoin insatiable d'approbation et de louange. Il privilégie la loyauté personnelle à cause de ses profondes insécurités. Dans mon livre, écrit donc Lester, dans mon livre « Stupide et dangereux », au pluriel, « Les États-Unis à l'ère de Trump », je cite le psychologue Eric Fromm qui a inventé le terme « narcissisme malfaisant ». Un trouble mental qu'il décrit comme étant la pathologie la plus grave, incitant celui qui en est touché à des actes de destructivité vicieuse et inhumaine. Trump est un mélange extrême de double de la personnalité narcissique antisociale, d'agressivité et de sadisme. Le narcissique malfaisant sape les organisations dans lesquelles il est impliqué et déshumanise les personnes auxquelles il s'associe. Un nombre grandissant d'élus du Congrès appelle les membres de son cabinet à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre Trump à cause de sa démence, affirme qu'il mène une guerre illégale et profère des menaces de crimes de guerre. Les élus préviennent les militaires américains qu'ils ne sont pas tenus d'obéir à des ordres illégaux. Jamais les membres de son cabinet n'oseraient faire ça. Et même s'ils le faisaient, Trump aurait probablement le vote d'une majorité du Congrès pour se maintenir au pouvoir. Quant à l'impeachment, Trump a fait face à deux reprises durant son premier mandat à une procédure de destitution du Congrès. D'abord pour abus de pouvoir en 2019 et en janvier 2021 pour incitation à l'insurrection. Il est le seul président américain à avoir été acquitté deux fois par le Sénat. Fin de l'article.
Ouais, juste par rapport à ces accusations, enfin, ça ne veut pas dire évidemment que je vais défendre Trump, mais c'est simplement que le problème, c'est le pouvoir. Quant au narcissisme, c'est un trait, enfin tous les traits qui lui, tous les trucs qui lui reprochent, les gens qui ne supportent pas la critique, on va dire qu'on a plus vite fait le tour des gens qui supportent la critique. Je ne connais que ça, et moi-même, j'aime ça qu'à moitié, je préfère plutôt critiquer les autres que d'être critiqué, on va dire. Je pense que j'endure plus facilement que d'autres, mais c'est très très banal. Le problème, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens comme ça, dès qu'ils ont même le moindre brin de pouvoir, hein, y compris justement puisqu'on parle des associations, dans les associations, dans les collectifs, quelqu'un que tu mets à un poste où il peut exclure, censurer, faire chier, insulter, tout ce que tu voudras, ben, en effet, déjà tu te retrouves à ces postes-là, pas par hasard, complètement. Hein. Oui. Et c'est sûrement pas par hasard non plus, parce que tu le voulais pas, puis un matin on t'a obligé à être président des États-Unis. Si t'étais pas un peu narcissique à la base, je pense que tu te retrouves pas dans cette position-là. Donc n'importe quel président est forcément plus narcissique que la moyenne, je pense. Hein. Et à partir du moment où en plus tu es dans une position où si ça te passe par la tête, tu peux en effet déclencher une guerre, mettre au point une loi qui va être particulièrement encore plus injuste que d'habitude. Bah, tu parles que tu vas pas te priver, quoi. Oui. Et je vois pas à qui ces diagnostics, à quel chef d'État, à quel chef en général, ça s'applique pas, quoi, tu vois. Ça. Donc le problème, c'est de toute façon que quelqu'un qui en effet est particulièrement dénué d'empathie, on va dire. Oui. Mais après, se retrouve à un poste comme ça. Après, c'est la poule et l'œuf. Il n'aurait pas été, président. Mais même du point de vue, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on a plus peur de l'idée de quelqu'un qui est en effet sadique, méchant, égoïste et tout, soit au pouvoir, ou de quelqu'un qui serait fou, donc qui ferait vraiment n'importe quoi, genre tout d'un coup son doigt tremble au-dessus du bouton rouge et balance une bombe nucléaire, quitte à en prendre une à son tour sur la gueule, comme on voit ça dans, par exemple dans Dead Zone et tout, d'après Stephen King par Cronenberg. Il y a le président est fou Et puis du coup, il menace avec un flingue le chef militaire pour qu'il accepte d'appuyer sur le bouton, quitte à détruire la planète, parce que il est fou, si tu veux. Donc ça, c'est un truc qui est plus angoissant comme idée. Parce que tu te dis, si au moins t'es pas fou, tu verras ton propre intérêt, même si t'es très narcissique et tout. Tu verras ton propre intérêt, donc tu vas éviter de détruire la planète, par exemple. Tu vois. Alors que si t'es fou, si ça se trouve, voilà, tu vas agir comme le président des États-Unis dans Dead Zone.
Sauf qu'en général, dans la réalité, les décisions sont quand même assez réfléchies, en général. Parce que bon, c'est tout un staff aussi, c'est pas seulement Trump, mais c'est tout un...
Bah, dans le cas de... Dans Dead Zone, justement, il tenait compte de ça en disant « Il menace tout le monde avec un fusil, tu vois, pour maintenant appuyer, etc.
Oui. »
Bon, bah, non, mais à partir... C'est non, la question du pouvoir. Est-ce que tu trouves normal de vouloir d'être qu'il y ait des gens au pouvoir, quel qu'il soit,
c'est un peu aussi le milieu qui fait la folie, c'est-à-dire que...
Le fait qu'il y ait toutes les
caméras du monde braquées sur lui, donc il faut pas qu'il fasse non plus...
Oui, mais il n'est pas arrivé là par hasard non plus, c'est ce que je veux dire. Mais après, les diagnostics de folie, ça me paraît extrêmement arbitraire, et de toute façon, les diagnostics des psys, c'est toujours de la daube, que ce soit pour Trump, pour n'importe qui, ça vaut pot de balle. Voilà, c'est mon avis.
Puis bon, alors ce qui semble être un dérapage dans les décisions politiques du gouvernement des États-Unis, avec la guerre en Iran, etc., je pense que l'altération de la santé mentale d'un individu, tout chef d'État qu'il soit, ne suffit pas à l'expliquer, selon moi. Par exemple, j'avais entendu l'autre soir à la télé, alors il s'appelle Arnaud Aurin, économiste et historien, auteur d'un livre « Le monde confisqué », un essai sur le capitalisme de la finitude, invité le 12 janvier 2026 à l'émission « Les idées larges » sur Arte, la présentatrice, la journaliste Laura Raïm, soulignant un Donald Trump qui a évoqué la possibilité de prendre le contrôle du Canada, du Groenland, du canal de Panama, du Mexique et de la bande de Gaza... A une explication, alors Arnaud Aurin a une explication un peu plus différente que celle d'un diagnostic clinique. C'est cela reflèterait en fait une transformation historique du capitalisme.
Je peux poser une question. Est-ce que si la soif de pouvoir et de conquête et tout, à n'importe quel prix, quelles que soient les violences et le nombre de morts, en effet mérite un diagnostic de psy, qu'est-ce qu'il faut penser de Napoléon, franchement? Enfin, je veux dire, on peut dire qu'il valait bien Trump dans son genre, et pourtant il est au Panthéon, j'ai pas rêvé.
Exactement. Et c'est là que l'explication un peu aussi de cette mutation du capitalisme est intéressante. Parce que déjà le fait que de médicaliser le phénomène, ça coupe un peu toute discussion, quoi. Alors que là, ça ouvre un peu, même si on n'est pas forcément d'accord avec Arnaud Aurin, l'économiste, mais on peut quand même en discuter. Donc actuellement, on passerait d'un libéralisme et d'un néolibéralisme qui se caractérisait par un commerce de ressources du monde considéré comme illimité, les ressources. Et où les monopoles étaient combattus pour que tout le monde gagne, un pillage généralisé de la planète en même temps, et à l'apparition maintenant, depuis les années 2010, d'un capitalisme où il n'y en aura pas pour tout le monde, et qui développerait...
C'est nouveau ça.
Oui, enfin, un peu encore plus qu'avant, on pourrait dire, et qui développerait le retour des monopoles, des guerres ouvertes pour l'accaparement des matières premières et des marchés, alors qu'elles étaient plus dissimulées sous le néolibéralisme, de la prédation, de la concentration de la puissance sur le mode des pratiques du capitalisme conquérant des 17, 18 et 19e siècles. Donc Napoléon aussi. Mais avec des armes du 21e.
Oui, parce que malgré tout, je verrais les choses autrement. Il y a des choses qui sont... C'est la logique de ce qu'est le capitalisme. La logique, effectivement, d'extension, d'écrasement de celui qui... Enfin, de la raison du plus fort. Enfin, c'est la logique même. Et quand tu as un État et un État qui est puissant, ben, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Et il n'y a rien de nouveau d'une part. Mais c'est surtout que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu plus autant de timidité avant, alors que dans la logique de ce qu'est le pouvoir, c'est une logique de conquête, et c'est quand même pas nouveau, ça vient de sortir, et ça serait un renouveau ou quelque chose, un virage ou quoi. Tu vois, à une époque, le capitalisme était un peu timoré, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait même des patrons embauchaient des gens à rien foutre. Je te jure, c'est vrai, enfin, Laurent m'a raconté des trucs comme ça, ils avaient été embauchés, on embauchait des cadres, enfin bon, à un moment donné, mais c'est ça qui était bizarre, parce que c'est pas logique. Je veux dire, tu lis Au bonheur des dames, qui est donc un petit peu les débuts de la société de production-consommation, non pas de la logique de pouvoir, parce que ça remonte à, je m'excuse, les Romains étaient dans une... Je ne sais pas si Jules César était salué, mais bon...
À Gilgamesh.
Oui, voilà, je suppose que même dans les cavernes, il devait y en avoir qui se disaient, tiens, je piquerais bien les trucs du voisin, quitte à les défoncer, quoi. Mais il les réduire en esclavage. Je veux dire, c'est une logique qui, même au-delà du capitalisme, est la logique de la raison du plus fort, quoi. Je suis plus fort et je veux des esclaves parce que j'aime bien l'idée que des gens fassent des corvées pour moi. Je veux un max de richesses parce que c'est bon. Et quand je suis à un poste de pouvoir, oui, en effet, c'est que j'ai déjà un ego qui est en assez bon état, et je tiens à régner sur un maximum de territoire, de gens, etc. Enfin, ça date de oui. Même si c'était pas sous la forme de la société de production-consommation, la logique du pouvoir, elle est vieille, oui. Comme et on peut même la trouver chez des animaux, hein, oui. C'est pas, il y a rien de
avec son pendant, je suppose, qui est une économie non pas de profit, mais une économie plus mutualiste une organisation sociale différente, qui pouvait être le pendant aussi de ces situations de pouvoir et d'économie de marché, quoi.
L'anarchie, déjà, se propose qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de chefs et qu'il n'y ait plus d'argent. Donc déjà, en effet, je vois, si normalement, enfin, tu vois arriver quelqu'un comme Trump qui dit c'est moi le chef et maintenant on va aller bouffer la gueule du voisin, il n'y a pas de voisin puisqu'il n'y a pas de frontières déjà. Mais surtout, là aussi c'est la poule et l'œuf. Tu ne peux pas parler d'une société libertaire si jamais tu as des chefs et tu as de l'argent et tu as des frontières. Donc, tu vois, c'est une question de cohérence. En revanche, il est très cohérent que dans une société étatique et capitaliste, tu vois émerger des chefs qui sont encore pires que les autres. Parce que des guerres, la France, par exemple, a participé à initier même. Par exemple, quand il y a eu la guerre au Kosovo et en Afghanistan, c'était même la gauche qui était dans le coup, quoi. Donc, c'est pour te dire que enfin, il n'y a pas psychiatrisé un état de fait politique, mais d'une manière générale, c'est un truc dont on a déjà parlé, c'est pas pertinent dans le domaine politique en général de vouloir une grille psy, c'est pas pertinent.
Oui, voilà,
ça t'est d'aucun secours.
C'était un peu le propos donc que
oui.
Nous avions
voilà,
ici
exactement.
Dans cette émission par rapport à cette situation
on est d'accord.
La géopolitique. Eh bien, on va venir au Brut en blanc de Martin Winkler, mais auparavant une petite pause.
Je me rappelle comme si cela s'était passé hier. C'est un jeune lascar à l'époque en 93. Pour lui, ce frère, ce qu'il aimait, c'était les grosses caisses. Il était la school et préférait faire du business. C'est ça la vie d'un mec en banlieue. Ça rêve de cash, d'une femme heureuse. Ça n'est pas si facile dans un monde sans pitié. En temps de crise, on va pour deux dérives jusqu'à même canner. Je me souviens même d'une époque de sa vie. Samir Calibre en poche, braquer les dealers de Toshi. Mais bon, à part ça, on n'a pas la vie en rose. La plupart fils d'ouvriers, on a tous envie d'une seule chose. S'arracher de la banlieue, éviter tous les soucis. Partir très loin et ne jamais revenir habiter ici. Putain de merde, j'ai peur pour mes enfants. Quand je pense à lui, ce qu'il a fait, il en a pris pour 6 ans. Mais que nous réserve l'avenir. Souffrance, déception inutile pour un monde de 16 piges. Situation critique dans nos quartiers français. Combien de frères sont tombés sans dire au revoir à leur mère. Espérons un jour la voir sur de plaisir. Dans une ville à Fleury sur la Côte d'Azur, vie de riche. Histoire réelle, on parle d'un mec qu'on a connu. Les mères des envolées pour cause influence de la rue. Faut être sage lorsque la poisse colle à la peau. La raison, garçon, en deux mots, va plus leur plus haut. Histoire réelle, on parle d'un mec qu'on a connu. Liberté envolée pour cause influence de la rue. Faut être sage lorsque la poisse colle à la peau. La raison, garçon, en deux mots, va plus leur plus haut.
Deux ans ont passé et tout
jour incarcéré. M'amène sa mère enfermée dans un putain de 3 mètres carrés. Pense, repense à sa famille qu'il a quittée. Un sale matin, embarqué, menottes au poignet, tête baissée. N'osait regarder sa mère pleurer, c'est dur pour elle de voir son fils se faire maltraiter et emporter. Direction la putain de zonzon, voir les copains, bonjour les matons. Putain, c'est trop con, ici les rues sont pleines de juvéniles, squattant sur le bidding, croyant que la vie c'est si facile. Tu parles, refrain. On a tous une vie de chien, un chemin tracé. Pour la plupart, un destin malsain. Se fout en tout, même si la vie ne fait pas de cadeaux. Les jeunes d'ici sont prêts à tout pour quitter le ghetto. C'est bien beau, mais un jour tout cela se finit. Regarde Samir, passe tout son temps en zombie. Reçoit des lettres, des mandats, des visites de sa famille. Et chaque nuit se demande quel jour sera sa sortie. Ses rudes cousins, d'être enfermé à l'ombre au guitar. Sans femme, sans bingo, en chaleur comme un clébard. Et vite de penser à tous les jours qui restent à tirer. C'est trop chambé lorsqu'on est un jeune condamné. Les temps sont durs, les nuits sont tristes. La liberté est loin, en attendant le jour J. Tiens bon cousin.
Histoire réelle, on parle d'un mec qu'on a connu. Liberté envolée pour cause d'influence de la rue. Tout d'être sage lorsque la poisse te colle à la peau. La raison garçon, en deux mots, va plus en plus haut. Histoire réelle, on parle d'un mec qu'on a connu. Liberté envolée pour cause d'influence de la rue. Tout d'être sage lorsque la poisse te colle à la peau. La raison garçon, en deux mots, va plus en plus haut.
Depuis pas mal d'années se sont écoulées, son jour j'y approche et enfin sera libéré.
Quelle joie pour lui de retrouver au grand complet sa famille, ses amis et même ceux qui l'ont oublié.
Sa meuf, elle, qui soi-disant a patienté, sans tromper, sans doubler, j'en doute, mais Dieu seul sait.
Et après tout, on s'en fout, tout ce qui compte pour nous, c'est que Samir soit de retour à présent parmi nous.
Alors qu'il croyait perdu, cette sortie tant attendue, un jour inattendu, a pu retrouver sa putain de rue.
Dis-moi, la réinsertion sera-t-elle bonne face à l'argent que le vice, les conneries te donnent.
Pour être sage lorsque la poisse te colle à la peau.
La raison, garçon, en deux mots, va plus loin plus haut.
Deux squats, Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maîtresse, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. Alors, la vocation des médecins est de soigner, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Alors, pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants? Discrimination, juge de valeur, violence verbale et physique, gestes imposés ou archaïques. Ces brutes en blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008. Romancier, essayiste, il vit désormais au Canada où il participe à la formation des futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Il met au jour les nombreux dérapages de la profession face aux patients. Donc c'est un bouquin qui est 2016. Et nous lisons la quatrième partie. On arrive vraiment à la toute fin du livre, un livre qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le lit.
22e, paraît-il, d'après Nicolas, qui anime le site anarchiste.info, ce serait la 22e fois qu'on consacre une émission à ce livre. Et donc, oui, en effet, on découvre au fur et à mesure, comme vous. À moins que vous l'ayez déjà lu, évidemment.
Alors, que faire face à la maltraitance médicale ? La maltraitance médicale n'est pas seulement le fait d'actes individuels. Elle est le produit d'un ensemble de conditions défavorables aux soins. Le constat peut paraître désespérant, cependant il y a beaucoup de raisons de ne pas baisser les bras. D'abord parce que, quoi qu'en disent, pensent ou fassent les médecins les plus réactionnaires, La relation entre patient et médecin a changé et elle continuera à évoluer. Le temps n'est plus où l'immense majorité des patients acceptaient sans broncher qu'on les traite comme des objets. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la santé des femmes où, même s'il reste beaucoup à faire, les progrès sont considérables. Grâce aux citoyennes. En 2009, dans mon roman « Le cœur des femmes », je décrivais en détail ce que devait être une consultation gynécologique respectueuse. Cette description n'est pas passée inaperçue. Le roman s'est vendu à près de 200 000 exemplaires et je reçois chaque jour des messages à son sujet. Il y a quelques jours, une correspondante me racontait l'histoire suivante. Ma fille de 19 ans m'annonce qu'elle vient de lire Le cœur des femmes et que ça l'a préparée à son premier rendez-vous chez le gynécologue. Justement, elle doit s'y rendre le jour même. Par SMS, je lui écris « Dis bien ce que tu veux et ne veux pas. Être toute nue, etc. C'est toi qui choisis. » Elle me répond « Pas de problème, j'ai bien précisé au téléphone que je ne voulais pas d'examen, mais juste un entretien. » Et la gynéco était d'accord, me disant qu'elle ne faisait jamais d'examen gynéco la première fois. Elle me rappelle juste après la consultation. « Je ne retournerai jamais la voir. » Elle a commencé par un interrogatoire digne de la police. Je ne pouvais pas en placer une. J'ai dit que je voulais juste parler contraception. « Bon, ben, je suppose que vous y avez déjà réfléchi. Oui, je ne veux pas de pilules, des hormones, ça m'embête et j'ai peur d'oublier. Je pensais au DIU. » Le DIU, on le rappelle, c'est le stérilet. Mmh. La gynéco outrée lui a répondu « Ah ben oui, il y a des avantages. » Et pour les écolos comme vous, il n'y a pas d'hormones. Mais dans un utérus tout petit, le DIE peut tomber, alors que la pilule, c'est génial. Si vous avez peur d'oublier, prenez un patch. Il y en a un nouveau qui sort en juin, il est transparent. Ma fille était scandalisée qu'elle lui mente. Elle voulait me vendre sa soupe. Ensuite, la gynéco a voulu prendre sa tension et la peser. Mais quand elle a voulu lui faire un examen des seins, ma fille a répliqué « Je vous ai dit que je ne voulais pas ». Bref, elle en est repartie fâchée. T'imagines, si j'avais pas lu Martin Winkler et si ma mère s'intéressait pas à ça, je serais encore jambes écartées dans son cabinet.
Par rapport à ça, en effet, je trouve que c'est bien que cette jeune fille ait pu tenir compte des conseils de Martin Winkler pour pas se laisser faire par cette femme. Déjà, c'est pas mal que ça soit une femme, parce que la question du choix, justement, du gynéco ou de la gynécologue, moi, personnellement, quand elle s'est posée, enfin, j'ai tendance à fuir les médecins, hein, en général, mais faut vraiment que je sois vraiment quasiment au seuil de la mort pour que je me résigne à aller voir un toubib. Mais en même temps, quand ça m'a été obligatoire, comme par exemple quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas la possibilité d'aller voir un gynécologue ou une gynécologue et tout libéral parce que c'était trop cher, dans la mesure où ils sont... Je sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas assez ou quoi, mais ils faisaient tous une surfacturation que je ne pouvais pas payer. Du coup, j'étais obligée d'aller à l'hôpital, et quand tu vas à l'hôpital, tu choisis pas. Je voulais pas que ce soit un homme, mais c'était un homme. Et il s'est mal comporté. C'est-à-dire que je te jure qu'il m'a planté un spéculum comme on planterait une banderille. J'ai fait un bond de 1 mètre sur la table, tellement ça m'a fait mal. Mais pareil, il te parle mal, il te calcule à peine. T'as pas le choix. Je veux dire, c'est quand même ça aussi le problème. On en revient à la question du pouvoir. Quand ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui n'ont pas le choix, le médecin qui te fait payer 10 fois le prix, peut-être. Enfin, j'ai bien constaté que quand j'en parle avec des gens qui ont les moyens, que quelqu'un qui cherche à garder une clientèle aisée, qui va payer le prix fort, va être forcément beaucoup plus respectueux que déjà avec le mépris de classe qui est une réalité, mais aussi le fait que de toute façon, il sait que t'as pas le choix. Donc, il pourrait même t'accueillir avec une paire de claques que tu continueras à aller le voir, quoi. Donc, c'est quand même ça aussi le problème. Et par rapport à l'idée du stérilet VS la pilule, je trouve ça très... En effet, il y a un côté complètement délirant, quoi, si tu veux, parce que, généralement, ce qu'on argue par rapport au stérilet, c'est qu'il peut y avoir, en effet, il y a des problèmes avec la pilule, mais si toutes les femmes se sont jetées sur la pilule à une époque où en plus tu avais des tas de les hormones, c'était bien pire.
Oui, c'était expérimental.
Ah, mais oui, et puis on savait, enfin les femmes savaient que ça pouvait donner le cancer, et que c'était pas une blague en plus. Hein. Mais vas-y, balance le cancer, j'aime mieux ça que d'avoir un enfant non désiré. Donc si tu veux, c'est les médecins, évidemment, ils disaient, ah, attention, vous, avec la pilule, vous allez avoir le cancer, vous allez grossir, enfin, toutes sortes de problèmes de santé. Et la plupart des femmes préféraient ça. Plutôt que de risquer de tomber enceinte. Donc, tu peux quand même prévenir des risques, mais malgré tout, tu peux quand même aussi prévenir que s'il y a un truc qui est bon à 100%, qui est fiable à 100%, en condition que tu ne fasses pas n'importe quoi, et sauf certaines pilules, puisque ça a été mon cas, un médecin m'avait prescrit une pilule, c'était un dermato, donc il m'avait dit ça fait pilule en même temps. Cette pilule, il y a eu un scandale, parce que non seulement elle était très dangereuse, et il ne m'avait pas prévenu, mais en plus, elle n'était pas fiable à 100%, ce qui fait que maintenant, j'ai un résultat qui mesure à peu près 2 mètres de haut. Hein. Mais je veux dire, le truc, c'est que je m'en plains pas au bout du compte, mais enfin, normalement, ça aurait été quand même bien de me prévenir. Donc, si tu veux, malgré tout, il devrait y avoir une obligation de conseil, mais sur l'idée du choix, d'être mécontent de ton gynéco, ben, il y a beaucoup de femmes qui diraient, ouais, je suis bien d'accord, mais j'ai pas le choix. Je dois aller à l'hôpital, j'ai pas les moyens de trouver. Et regarde, il y a même des déserts médicaux où t'en as pas, jusque je sais pas où, quoi. Mais moi, je me rappelle même qu'il fallait attendre je sais pas combien de temps, tellement ils étaient blindés. Donc quand t'es enceinte, tu peux pas attendre je sais pas combien de temps, ou si t'as un soupçon de, j'en sais rien, de cancer de l'utérus ou un truc comme ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'hôpital, c'est comme ça, t'as pas le choix. Tu prends celui qu'on te donne. T'as même pas, même s'il y a des hommes et des femmes et que tu pourrais en principe, il y a plusieurs gynécos, tu peux pas les choisir. Donc c'est, m'excuse d'avoir un discours de classe, mais c'est comme ça, voilà.
On est sur Radio Libertaire. Alors, aujourd'hui, grâce à des livres, à des forums, aux réseaux sociaux et plus généralement aux nouvelles initiatives que permet Internet, l'information circule et beaucoup de femmes refusent de se soumettre aux examens arbitraires et aux affirmations mensongères de certains médecins. Pour autant, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas de sitôt qu'en France, les facultés de médecine diplômeront des soignants. Les structures institutionnelles sont trop lourdes pour qu'on puisse espérer les changer du jour au lendemain. Tout au plus, peut-on espérer qu'un Parlement plus progressiste que les autres permette par ses lois de créer de nouvelles structures formant des médecins issus de toutes les catégories socio-professionnelles, respectueux, dévoués et qui se consacrent aux soins?
Alors là, justement, là, je vais en venir à un certain réalisme par rapport à l'idée des classes sociales. Mmh. Et c'est pas le problème des gouvernements et c'est pas le problème de l'ascenseur social, si tu veux. L'ascenseur social, c'est une blague. Il y a pas c'est pas pour rien que des gens, des fois issus de classes sociales défavorisées, essayent de faire des études et les statistiques sont formelles. Ils dépassent très rarement la première ou la deuxième année. Et déjà, ben, en effet, si on mettrait Paris en bouteille, hein, comme on dit, mais je veux dire, par définition, être issu d'une classe sociale défavorisée, ça signifie entre autres le fait que par exemple, t'as pas les moyens, il faut que tu travailles en même temps, que en effet, sans doute il y aurait plus de médecins, mais d'autre part, t'es pas poussé à ça dans ton quotidien, le fait d'avoir des parents qui peuvent te payer des bouquins, qui te poussent aussi. Et puis après, on va projeter le mois prochain le film sur les Lascars du LEP électronique dont je parle sans cesse, pour la sixième ou septième fois. Mais quand tu es sélectionné, si déjà on arrêtait de sélectionner des élèves à la sortie de la troisième, comme justement les fameux Lascars du LEP électronique, oui, effectivement, ça serait bien, mais qu'est-ce qu'ils disent les Lascars? C'est qu'on serait dans une autre société, qui serait pas une société capitaliste, qui serait pas une société, qui serait pas une société de classe. Mais ils demandent pas la révolution, ils nourrissent l'espoir d'un ascenseur social. Et les Lascars expliquent en quoi c'est complètement irréaliste d'imaginer qu'au sein d'une société capitaliste, on va vraiment avoir pouvoir aboutir à l'égalité des chances, qui de toute façon n'est pas du tout l'objectif, c'est-à-dire de créer une, de pouvoir créer par, pour ceux qui sont méritants, une nouvelle élite, parce que tout le monde ne peut pas, hein, il faut des gens pour faire le peuple dans le, dans la société où on est. Donc, que tu aies des gens qui arrivent à s'en sortir, ou même qu'on pousserait en leur donnant des bourses, c'est déjà un peu le cas des fois. Mais, et puis que du coup, ils pourraient eux aussi accéder à des métiers moins durs et puis mieux payés. Parce que je suis allée comme la semaine dernière, il geignait Martin Winkler sur le fait que les spécialistes étaient mieux payés que les généralistes, sans dire de quels étaient le salaire, on va dire, le plus bas possible. Je suis allée regarder ça. Oui. Donc, vraiment, quand tu viens de démarrer dans le trou du cul du monde, etc., avec une clientèle très modeste et tout, dans le pire des cas, c'est 3 400 € par mois. On n'a jamais relevé moins, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, quand même, quoi. Hein. Donc, mais évidemment, si jamais t'es un gosse de riche et que tu dois, que t'as la possibilité de faire des études, bah, tu vas peut-être choisir une autre voie où tu te dis que tu es sûr, où tu vas aller dans, en ville, évidemment, ce qui, où tu vas te spécialiser, en effet, si tu peux. C'est logique, tu vois. Mais l'idée de l'ascenseur social, non seulement c'est pas possible parce qu'on n'est pas, ça se saurait sauter dans une société à visée égalitaire, et si qui, pourquoi pas, si on voterait à gauche, tout d'un coup, ça serait le début de l'égalité. Mais cette idée-là, c'est l'idée de l'égalité des chances. Et c'est pas du tout le point de vue des anarchistes. C'est pas que tu puisses, toi aussi, si t'es méritant, ou si on t'a un peu aidé, mais il faut être un peu méritant. Tout le monde peut pas... Non, mais il faut quand même des gens pour balayer par terre, ramasser les poubelles, travailler dans les chantiers, hein, quand même, un peu. Donc, voilà, quoi, tu te dis, c'est pas du tout notre notion. C'est la notion dont il parle là. Ça serait bien s'il y avait... évidemment, on peut dire ça serait bien s'il y avait plus de médecins, mais ça ne tient pas que à l'idée de payer des formations. Enfin, je veux dire, de toute façon, ils ont besoin d'être soignants et d'infirmières aussi. Et donc, voilà, quoi. Payer pour ça, c'est pas... je pense que c'est pas tellement un objectif, mais de toute manière, c'est pas comme ça que nous on peut envisager les choses. L'idée que les gosses de pauvres puissent, ou s'ils sont méritants, et si on les aide un peu, si on leur donne un petit coup de pouce financier, eux aussi accéder à des métiers plus valorisants, moins difficiles et mieux payés. Voilà.
Alors, il rajoute, mais il n'est pas nécessaire d'agir sur les structures pour changer les relations entre les gens.
Oui, ça c'est vrai.
Il est tout à fait possible d'œuvrer de manière plus modeste autour de soi pour améliorer grandement le sort des patients et la manière dont ils se feront soigner. Contre la maltraitance médicale ordinaire, il y a beaucoup à faire individuellement et collectivement. Conseils généraux lors d'une consultation médicale. Tous les médecins ne sont pas maltraitants, mais une consultation chez le médecin peut être un moment de stress et certains gestes peuvent être difficiles ou pénibles. Voici quelques conseils pour prendre toute consultation courante aussi facile que possible. Il est bien évident qu'avec un professionnel soucieux, ces conseils sont superflus, mais ils peuvent être utiles avec un inconnu ou une inconnue. Gardez toujours à l'esprit, alors il y en a combien comme ça? Il y en a 8, 9, 10, 11, voilà, il y a 11 points. Premier, gardez toujours à l'esprit que c'est le médecin qui a des obligations à votre égard, non l'inverse. Le code de déontologie est clair, lisez-le, le moment venu, vous pourrez l'évoquer. Restez calme, le calme est toujours plus efficace que la colère. Deuxièmement, si vous avez le sentiment d'être face à une discrimination de quelque nature qu'elle soit, signalez-la au médecin concerné. Il n'en a peut-être pas conscience.
Oui, pourquoi pas.
Troisièmement, n'acceptez jamais de régler une consultation à l'avance. Il n'a pas le droit de l'exiger de toute manière.
Ah, c'est bizarre, ça t'est déjà arrivé ça? Qu'on te demande de régler la consultation à l'avance?
Non.
Non, moi non plus, c'est bizarre. Mais c'est un bon conseil, pourquoi pas, oui.
Ça a dû arriver. N'acceptez jamais de vous déshabiller avant qu'il vous ait écouté. N'acceptez jamais qu'on vous examine sans qu'on vous ait expliqué à quoi cet examen va servir et sans que vous ayez donné votre consentement. Vous n'êtes jamais obligé de vous déshabiller si vous n'en voyez pas l'utilité. Si vous décidez de vous faire examiner, n'acceptez pas non plus de vous dévêtir complètement. Le plus souvent, on peut parfaitement vous examiner en sous-vêtements ou partiellement habillé. Gardez le haut pour un examen gynécologique, par exemple. Cinquièmement, n'acceptez jamais un geste instrumental dont vous ne connaissez pas la nature sans qu'on vous ait expliqué précisément son déroulement, son but et les informations qu'on souhaite en tirer. Tout geste peut être fait de manière indolore ou presque, à condition que le médecin prenne son temps. Lorsqu'on vous fait mal, dites-le et interrompez le geste immédiatement. Arrêter veut toujours dire arrêter tout de suite.
Ah, moi j'ai une astuce pour ça. Ouais. Je t'ai parlé de mes hurlements qui ont toujours impressionné tout le monde. Et je veux dire, c'est ce que je fais. En général, effectivement, ça tétanise non seulement le médecin, mais tous les patients dans la salle d'attente. Donc voilà.
Un médecin qui fait mal sans l'avoir voulu présente des excuses. Un médecin qui n'exprime ni regret ni excuse a un comportement antiprofessionnel. Un médecin qui continue à faire mal sans s'arrêter est passible d'une plainte pour coups et blessures. Sixièmement, exigez toujours une explication détaillée de ce que le médecin a constaté, de ce qu'il pense ou croit avoir diagnostiqué. S'il ne sait pas, qu'il le dise et qu'il vous dise aussi ce qu'il compte faire pour en savoir plus. Assurez-vous qu'il note précisément ses constatations dans votre dossier.
Bah là, par rapport à ce conseil-là, de si jamais tu peux pas savoir s'il se trompe. Je veux dire, c'est quand si t'as un mec, je t'ai parlé du truc qui était arrivé à ma mère, et parce qu'elle est tombée sur justement un médecin d'ailleurs qui était lui pas spécialiste de la gérontologie, donc qui s'est trompé, et franchement elle a failli y passer. Hein. Ouais. Mais tu peux m'expliquer comment on peut deviner que s'est trompé. Ouais. Enfin, malgré tout, il n'y a pas d'erreur. C'est pas comme pour la psychiatrie qui n'est pas une science du tout. C'est quand même un truc où tu te dis il a fait en effet des études. C'est lui qui sait reconnaître que ton symptôme exige telle médication ou tel traitement. Ouais. Et indéniablement, il a des connaissances que tu n'as pas eues, même en lisant Santé Magazine. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un truc qui est compliqué de contrer de même simplement déterminer qu'un diagnostic est erroné. Alors évidemment, il n'y a qu'une seule solution, en fait, c'est de chercher un deuxième avis. Mais ce n'est pas évident tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Y a des fois, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas les moyens d'aller voir 36 toubibs. Et que du coup t'es complètement coincé. Mmh. Si le médecin se trompe, t'es juste complètement dans la merde, quoi.
Oui, mais se trompe, c'est peut-être aussi justement qu'il n'a pas su dire en amont qu'il ne savait pas. Et...
Ah oui, mais je suis d'accord. Ouais, mais ça. Par contre, puisque là il est question que. Que peux-tu faire contre ça? Comment peux-tu deviner que ce mec qui a l'air sûr de lui, en réalité, il se fout de ta gueule? Comment tu le sais?
Oui, c'est vrai.
Donc, comment tu peux... En effet, il devrait. Ça serait bien. Si c'était pas un connard et un salopard, ça serait mieux. Mais voilà. Je suis bien d'accord avec Winkler là-dessus. Mais le problème, c'est que tu as justement des gens qui savent pas, mais qui sont très péremptoires. Ouais. Et ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même très, très embêtant, si tu veux. Parce que comment contrer ça? Sérieusement, d'un point de vue pratique. Quoi.
Ouais. Septièmement, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Demandez toujours au médecin qui pratique un examen, échographie, radiographie en particulier, qu'il vous remette les examens effectués et vous explique le compte-rendu et les images obtenues. Ils vous appartiennent... Ils n'appartiennent ni à ce spécialiste ni au médecin qui les a demandés. De même, votre dossier médical, avec tout ce qu'il contient, vous appartient. Vous êtes en droit d'en demander copie à tout moment. Alors là, on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été psychiatrisées qui n'arrivent absolument pas, à obtenir leur dossier médical ou qui, vraiment, pour l'avoir, c'est vraiment le parcours du combattant. Quoi.
Mais est-ce que c'est pas un cas particulier parce que, de toute façon, un psychiatrisé n'est même pas une personne. Est-ce que, quand même, c'est pas plus facile? C'est une question.
Tu mets entre guillemets,
Oui, bien sûr. Je voulais pas dire que moi, je le pense, mais j'ai bien entendu. Mais comment dire, en ce qui concerne un médecin traditionnel, enfin, de de la, enfin, quand tu relèves de la, simplement de la médecine, je ne sais pas si c'est, parce que je ne l'ai jamais demandé. Donc, je ne sais pas si c'est difficile. Et si jamais, par exemple, le médecin fait de la résistance, est-ce que tu peux lui dire, fais ça, sinon j'appelle Julien Courbet ou j'en sais rien. Tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu, où je, j'appelle l'ordre des médecins dont j'ai vaguement entendu dire que tu pouvais guère compter sur eux. Ouais. Donc, si tu veux, je ne sais pas ce que tu fais si jamais le médecin te répond je t'emmerde ou simplement te dit non, mais enfin voilà, non.
En tout cas, même, voilà. Même le domaine psychiatrique n'échappe pas à la règle, c'est ça que je.
Moi, je crois que c'est pire. Je crois que ça doit être pire.
Même s'il y a des choses qui sont différentes au niveau du consentement.
Je crois que ça doit être pire. Je crois que ça doit être pire que t'es vraiment dans une situation encore plus basse par rapport au médecin quand t'es psychiatrisé que quand tu es juste allé voir ton docteur parce que t'as un panari, quoi.
Au niveau, oui, mais c'est, on est au niveau de l'informel, en fait. C'est-à-dire que quand t'es en psychiatrie, t'es peut-être dans une zone où il n'y a pas, disons, de surveillance.
De toute façon, c'est une zone. T'es dans une zone de non-droit, voilà.
Tout simplement. Donc,
Regarde, on en a parlé la semaine dernière parce que je croyais dans ma bêtise que normalement le médecin, le psychiatre n'avait pas le droit de te garder contre ton gré, oui. Puisque ça m'était arrivé. Et puis techniquement, je pouvais pas me sauver puisque à peine on prétend que je peux m'en aller quand je veux, mais finalement le médecin, le psychiatre a décidé que non.
Et en pyjama.
Voilà. Pas en pyjama, une espèce de chemise, oui. De nuit, enfin tu vois, avec rien, et on me confisque mon sac et toutes mes papiers, toutes mes affaires, et c'est pas une blague, il y avait des barreaux aux fenêtres, et c'était fermé, à clé. Enfin donc, bonjour, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir te tirer. T'as le droit de voir personne pendant une semaine ou 15 jours, comment tu fais pour te tirer de ce merdier? Mais normalement, si t'as la possibilité, enfin de te plaindre, quoi, normalement, ils ont pas le droit, mais ils le prennent quand même, quoi. Et tu te dis, c'est logique, de toute façon, je suis pas, j'ai pas toute ma tête, donc j'ai pas à décider de quoi que ce soit qui me concerne, de toute manière. J'ai quand même l'impression que c'est encore pire pour les psychiatriser, enfin, je crois.
Oui, oui. Huitièmement, quand un médecin vous remet une lettre pour un autre médecin, demandez à la lire. N'oubliez pas, le secret professionnel n'est pas opposable au patient lui-même. Ce qu'il écrit à votre sujet ne peut pas être secret pour vous. Neuvièmement, quand vous consultez un médecin pour un problème complexe ou émotionnellement difficile, préparez vos questions par écrit. Si vous craignez de ne pas bien tout comprendre, faites-vous accompagner par une personne de confiance en lui demandant de prendre des notes. Dites au médecin que vous autorisez votre accompagnant ou accompagnante à poser des questions, même s'il ne s'agit pas d'un membre de votre famille. Le secret médical qui vous concerne, vous êtes en droit de le lever pour la personne de votre choix. Et le médecin n'a pas le droit de refuser de vous recevoir avec elle si c'est ce que vous voulez.
J'ai aussi une objection d'ordre pratique encore. Hein. Oui. C'est-à-dire que je trouve que dans l'absolu, il a raison.
Dans le principe.
Oui. Dans le principe, il a raison. Oui. Mais par exemple, quand tu ne choisis pas ton médecin parce que tu n'as pas les moyens et donc que tu dois aller à l'hôpital, ou même d'ailleurs dans des cabinets comme ça, moi je vois par exemple, même pour aller voir l'ophtalmo ou des choses comme ça, eh bien, on te dit que tu ne dois pas amener quelqu'un dans la salle d'attente. Tu ne dois pas amener quelqu'un dans la salle d'attente, c'est comme ça.
D'accord.
Donc, si tu dis oui, j'ai le droit, je ne sais pas, si tu dis je ne veux pas que tu amènes quelqu'un, comment tu fais, tu vois. Et si tu ne peux pas l'amener dans la salle d'attente, je voudrais bien savoir comment tu fais pour le traîner dans le cabinet du médecin. Donc, là aussi, j'ai quand même l'impression que dans le principe, tu as le droit, mais que dans les faits, ce n'est pas toi qui décides. Enfin, voilà.
Dixièmement, ne partez pas sans avoir compris. Ne prenez pas de décision sans prendre le temps de réfléchir. En dehors d'une hospitalisation en urgence, rien n'est pressé à la minute. Au besoin, assurez-vous que vous pouvez rappeler les médecins ou lui écrire par courriel pour lui poser des questions supplémentaires et qu'il y répondra. Et onzièmement, si le médecin tente de faire pression sur vous d'une quelconque manière, verbalement ou moralement, dites-lui que vous ne l'acceptez pas. S'il persiste, sortez et partez sans payer. Voilà. Ça, c'est sur les 11 recommandations. Et donc, chapitre suivant, enfin, sous-chapitre suivant, au cours d'une consultation médicale, il est inacceptable qu'un médecin, alors là aussi, il y a toute une liste, vous demande des honoraires non prévus, en principe, tout médecin affiche les siens dans la salle d'attente, vous fasse payer d'avance en liquide ou refuse de vous donner un reçu pour les sommes versées, refuse d'écouter votre récit ou de répondre à vos questions, insiste pour vous faire déshabiller dès votre entrée, pour vous examiner entièrement nu, pour vous imposer un examen ou traitement ou une hospitalisation ou toute autre démarche dont vous ne voulez pas, exige de vous examiner, en revanche vous êtes en droit de demander qu'il vous examine si vous le jugez nécessaire, ne serait-ce que pour vous rassurer. Il est inacceptable aussi qu'un médecin vous impose la présence d'un ou d'une professionnelle en formation. Vous êtes en droit de refuser qu'un ou une étudiante assiste à la consultation et a fortiori que cet étudiant ou étudiante pratique sur vous quelques gestes que ce soit si vous ne le désirez pas.
Là aussi, j'en avais déjà parlé que je l'ai vécu. Quand tu es encore, quand tu es vidé, que tu es au ticket modérateur à une époque, maintenant à la CMU, enfin, que tu vas par exemple à une consultation gratuite à l'hôpital, et ben j'ai raconté qu'une fois il y avait carrément une troupe d'étudiants que le médecin avait invité à regarder de plus près mon cul, quoi, vois. Et je veux dire, je sais pas très bien ce que j'aurais pu faire. C'est parce que t'es pas dans une situation dire que t'es pas dans une situation d'égalité, le mot est faible. Et je veux dire, par exemple, c'est vrai que là maintenant où je suis à la CMU et où il y a, quand il y a un problème, il y a un cabinet où tu peux aller quasiment le jour même, enfin d'ailleurs le jour même des fois, et où quand t'es à la CMU tu payes rien, par contre ils te remboursent pas la mutuelle si jamais t'es pas à la CMU, le fait est que si tu veux, comme c'est très compliqué de pouvoir avoir un rendez-vous tout de suite, quand on a besoin tout de suite, évidemment, t'es pas tellement en position d'avoir des exigences. Et en plus, c'est très à la chaîne, hein, tu t'imagines. Parce que si jamais tu dois rester une heure, ça voudrait dire que les gens attendent je sais pas combien de temps dans la salle d'attente. On est nombreux. C'est jusque tard le soir en plus. Et il n'y en a pas d'autres qui font ça dans le coin. Donc, et surtout, il y a un truc, c'est que le médecin, j'y suis allée plusieurs fois, le médecin n'était jamais le même. Donc ça facilite pas non plus, et puis comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui se fait à la chaîne, et tu peux pas exiger que des trucs et des machins, t'es pas en position, tu vois.
Oui, puis quand on t'impose quelque chose, t'es dans une situation où il se passe quelque chose, t'as des informations que t'avais pas prévues et tout ça, et donc ça te saisit un peu, tu sais pas comment réagir sur le coup.
Oui, et puis mais c'est aussi la situation d'ordre social. C'est pas pour insister sur cet aspect-là,
mais
il est évident qu'à une époque où j'avais réussi à aller voir un dermatologue à un moment où j'avais des problèmes d'eczéma, tu vois, j'avais réussi à avoir un dermatologue dans son cabinet. Et crois-moi que c'était pas la même consultation qu'à l'hôpital. C'était la même personne, mais il m'avait dit venez me consulter, enfin si vous voulez avoir une consultation plus étoffée, il faut venir me consulter à mon cabinet, où là premièrement, effectivement, quand ils sont à l'hôpital, souvent c'est qu'ils sont obligés. Je sais pas trop bien pourquoi, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Et alors là, c'est vraiment la chaîne, quoi. Ça n'a rien de dire. Tu réponds à un truc, je dis mais je suis pas d'accord. Il me dit faut prendre des corticoïdes. Et j'ai dit mais je vais pas prendre des corticoïdes, ça me réussit pas du tout, parce que corticoïdes suivant. Bon, et je sais pas qu'est-ce que je fais. Je lui mets un couteau sur la gorge, je lui casse la gueule. Qu'est-ce que je fais, si tu veux. Alors que quand j'ai payé le prix fort en allant dans son cabinet, il a pris son temps, etc. pour m'interroger, il m'a pas parlé comme à de la merde. J'exagère pas, hein, c'est la vérité. Donc si tu veux, ces conseils ils sont valables, mais il a l'air d'oublier que beaucoup de gens n'ont pas le choix en matière médicale.
Oui, c'est plutôt un rappel de principe, quoi.
Oui.
Des principes.
Oh non, mais il a raison de conseiller ça.
Oui.
Mais c'est valable pour les gens qui peuvent choisir leur médecin.
Ouais. Oui. Alors, je vais en lire encore quelques-uns. Je ne vais pas tous les lire parce qu'on n'aura pas le temps.
On peut faire la semaine prochaine.
On peut continuer la semaine prochaine. Donc, au cours d'une consultation médicale, il est inacceptable qu'un médecin fasse quelque geste que ce soit sur vous sans votre consentement explicite. S'il n'y met pas un terme dès que vous le demandez ou s'il récidive, levez-vous, rhabillez-vous et sortez immédiatement. Rappelez-vous et, au besoin, rappelez-le au médecin. Pour le code pénal, toute pénétration sexuelle sans autorisation, examen gynécologique, toucher rectal, échographie vaginale, est un viol. Il est inacceptable aussi qu'un médecin pose des questions concernant votre vie personnelle, votre sexualité ou votre situation professionnelle, familiale, socio-économique, sans relation avec votre motif de consultation. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si le médecin insiste, demandez-lui de vous expliquer en quoi c'est médicalement pertinent. Et si vous n'êtes pas convaincu, demandez-lui de ne pas insister. Il est inacceptable qu'il porte des jugements de valeur sur votre aspect physique, vos vêtements, votre activité professionnelle, votre origine sociale ou ethnique. Les compliments, entre guillemets, appuyés ou séducteurs, sont également inacceptables. Si on vous en fait, relevez-les et exigez que le médecin vous parle autrement. Il est inacceptable qu'il profère des cris, des reproches, des insultes, des commentaires désagréables ou désobligeants. Demandez-lui de cesser. Si cela ne cesse pas, levez-vous, rhabillez-vous et sortez.
Mmh, même remarque, hein. Si ouais. Tu peux, si tu as si des alternatives. Oui. Ouais.
Il est inacceptable qu'il vous soumette à un chantage, vous culpabilise, vous fasse peur ou vous menace, pratique l'ingérence dans vos affaires privées ou vous bombarde de leçons de morale. Demandez-lui de cesser. Si cela ne cesse pas, levez-vous, rhabillez-vous et sortez. Il est inacceptable qu'il vous assène une mauvaise nouvelle sans précaution et sans prendre le temps de vous aider à encaisser. Un médecin vous doit une information loyale sur votre état, mais il n'a pas le droit d'utiliser cette information comme une massue, ni celui de vous laisser en plan. Il est inacceptable que votre médecin insiste pour que vous preniez une décision sur le champ alors qu'il n'y a pas d'urgence vitale. Il est inacceptable qu'il vous prescrive un médicament à titre expérimental, ni qu'il mente ou vous impose des contre-vérités scientifiques. Si le médecin présente comme avéré une information que vous pensez erronée, vous êtes en droit de lui demander d'où il la tient, c'est-à-dire qu'il vous indique ses sources scientifiques.
Je sais pas là, juste hein, je sais pas comment tu pourrais contester. Enfin, le commun des mortels peut difficilement contester les sources scientifiques d'un médecin. Bon,
c'est
ouais.
Oui, c'est
enfin, on pourra en reparler le.
Donc la suite.
Oui, la suite au prochain numéro.
Voilà. Bon bah c'était l'entonnoir. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et qu'est-ce que tu vas nous mettre une musique ?
Un jour tu perds, un jour tu gagnes, un jour bêtise, un jour champagne, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Un jour bof bof, un jour super.
Gagné,
Bill,
perdu,
gagné.
Tranquille,
plus de plus.
T'avais sur le cœur, ton amour est sur le départ. T'as stoppé la clope, t'as gagné des kilos, t'as repris à fumer, t'as gardé les kilos. T'as trouvé un billet 100 euros sur le sol d'un parking. T'es tombé sur Mirko, tu fais de l'argent à Mirko, il te l'a fait remarquer. Mirko c'est faire, bim, bim. On est plein dans le salon, c'est pizza, c'est cadeau. On découpe les morceaux, c'est pizza, c'est cutter. La vie courue c'est gâté.
La vie courue c'est gâté.
J'ai fini d'être jeune, j'ai pas fini d'être con. C'est gagné.
C'est gagné.
On est dans ça, c'est talon, c'est bizarre, c'est cadeau, c'est bizarre, c'est cadeau,
c'est bizarre, c'est cadeau,
c'est bizarre, c'est cadeau.
J'ai gratté, j'ai gagné ce séjour à Tchernobyl. J'ai chevauché des poneys à Rhône Poulain, tranquille. J'ai gratté et j'ai gagné cette croisière en bateau mouche. Dans une ambiance du lâcher, dans une rivière de mer de louche. Mon addictologue est en vacances et mon petit cap est en arrêt. Pas de quoi se mettre en transe quand il y a absence de cachet. Avec nos amis d'énormes C, on est heureux de vous présenter ce morceau en direct de Guéméneux, en espérant qu'il te fasse vibrer.
te fasse vibreux.
Un jour tu perds, un jour tu gagnes, un jour métis, un jour champagne, un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour bof bof, un jour super.
Rien à gagner, tout à perdre, je suis le king de la loose. J'ai bien du topochon d'herbe, il est tombé dans la pelouse. J'ai déjà foutu dans la merde en plantant ta Renault 12. Mais t'inquiète pas, je vais me refaire, je suis sur un gros plan flouze. Je vais truquer la tombola de la fête d'école des enfants. Je vais braquer la pizzeria, celle qui est tenue par tes parents. J'ai tellement de bons d'achat que je peux racheter le Auchan. Vas-y, vite ton livret A, j'ai un tuyau à Longchamp.
Gagné,
perdu,
perdu,
loose, loose.
J'étais mêlé dans la serrure, j'étais au tapas cette soirée. La descente s'annonce dure, perdu un bout de ma dignité. Gagné 5 balles au banco, Paul Dev bar du métro. Contrôleur en vue,
perdu.
Les 4 fers en l'air, une blesse, je frappe, je vous flatte, mais je regrette la grappe. Le contrôleur me ramasse, j'ai perdu, je suis fracas. Je m'accroche à sa cravate, je suis fou, mi paire de claques. Puis qu'en cible, game over,
coup de matraque.
Je me suis égaré dans une ruelle sombre. N'étant pas une lumière, je n'ai croisé aucune ombre. Pas un chat, pas un chien pour me dire que je dois perdre ma vie à jouer. Mais les dés sont pipés, la roulette n'a qu'un trou. Pour les Russes, c'est 6 coups de lapin, bien entendu. Le coup du sort, on l'a pas vu. Heureusement, aucun humain pour me dire que je dois gagner ma vie à la perdre dans une jolie caisse en bois.
Un jour t'es classe, un jour t'es à chier, un jour t'es clean, tous les jours t'es HC. Un jour tu flaques, un jour tu flouses, un jour tu fuck, un jour tu blues.